Europe 1. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode.
Berkane Makhlouf, c'est quelqu'un qui est dans un sentiment d'omnipotence, de toute puissance, qui veut avoir une emprise sur l'autre. Avec son emphase, il parle beaucoup, il fait du bruit, on l'entend, il gesticule, il est bon. On pourrait penser que voilà, la pauvre Cécile a été victime de ce méchant Berkane Makhlouf qui n'était pas très sympathique, sans doute, hein, avec elle. Mais je pense que ils étaient beaucoup en miroir, et je pense que elle a joué une partition dans cette interrelation. Je pense qu'il a pensé qu'il avait une emprise sur Cécile Bourgeon. Il l'a pensé, et il m'a également dit que il a vu qu'il s'était trompé. Vous voyez, il a compris qui était Cécile Bourgeon. Par exemple, le jour de la découverte du corps de Fiona, il dit, mais quand on l'a découvert, elle est restée dans l'entrebâillement de la porte. Il dit, elle rigolait, cette conne. Il décrit une réaction ou une non-réaction de la part de Cécile Bourgeon, où elle reste à distance du corps de sa fille. Là, Berkane Makhlouf a compris que celui qui avait de l'emprise, c'était peut-être pas lui. Que celui qui s'était fait avoir, c'était peut-être pas elle. Parce qu'il a compris qu'elle était plus forte que lui. Au fond, je pense que c'est elle qui a gagné dans la relation. Hein. Je parle de l'interrelation de ce couple. C'est elle qui l'a emmené sur les chemins, c'est elle qui a conduit la voiture dans la forêt d'Eda, c'est elle qui l'a emmené là où elle voulait l'emmener. Ce qu'il a compris, c'est qu'il a aussi été l'objet de Cécile Bourgeon.
Code B63, examen psychologique réalisé par Hélène Dubost sur Berkane Makhlouf. Le compagnon de Cécile Bourgeon dit que c'est elle qui est à l'initiative de tous les mensonges. Il dit « Quand on a retrouvé Fiona morte dans son vomi, c'était la panique. Cécile disait qu'on aurait une enquête sociale, qu'on perd une gamine et qu'on allait perdre nos autres enfants. Elle était enceinte. C'est elle qui a eu l'idée. Elle disait « T'inquiète pas, on va dire que Fiona s'est perdue au parc. »
Ma conviction, c'est que Madame Bourgeon a vu chez Monsieur Makhlouf une forme de... C'était son bras armé.
Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger.
Madame Bourgeon, elle était en pleine capacité de venir instiller chez Monsieur Makhlouf des situations pour l'amener à être violent. Et à être violent notamment sur Fiona, pour atteindre les personnes qu'elle voulait atteindre. Elle n'a pas d'altérité. Il n'y a pas de sens de l'altérité. C'est-à-dire que l'autre n'est pas reconnu en tant qu'être humain. Elle peut avoir des personnes en face d'elle qui la rudoient. Elle ne peut strictement pas réagir. Parce que juste, elle ne vous considère pas. Vous n'êtes pas un élément de son environnement parce qu'elle a décidé que vous n'étiez pas un élément de son environnement. À partir du moment où elle va choisir que cette personne-là a un intérêt pour elle, soit de fantasme, soit de représentation qu'elle peut avoir ou de projection, alors elle va être extrêmement sensitive à cette personnalité-là. Et donc, il y avait énormément de personnes dans son entourage qui pouvaient dire « Madame Bourgeon est extrêmement gentille, agréable », mais parce que c'était des gens qu'elle ne calculait pas, si on doit dire les choses plus vulgairement parlant. Madame Bourgeon, c'est comme, je vais vous donner une image, c'est une coquille vide. Mais cette coquille vide, c'est très insécurisant pour elle, donc elle a besoin de la remplir. Et donc elle va la remplir, mais elle va faire le choix des personnes qu'elle va prendre pour la remplir. Donc il y a une dépendance aussi à l'autre, parce que sans l'autre, elle n'existe pas, elle n'est rien, elle n'est que du vide. Donc elle est dans la recherche perpétuelle d'une adhésion, du collage à cette personne-là, mais pas dans quelque chose de très passif, pas non plus dans une posture de dominer comme on pourrait l'imaginer. Être dans le collage de l'autre, dans l'adhésion, vous pouvez être très actif et surtout très dominant dans ce collage-là. Et d'ailleurs, chez Monsieur Maclouf, beaucoup moins de possibilités psychiques chez lui de réagir et de se défendre de cette relation avec Madame Bourgeon, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Toute la question qui peut se poser, c'est est-ce que Madame Bourgeon était sous l'emprise d'un mari pervers, un compagnon pervers, et aurait été incapable, de par cette emprise, d'empêcher ce drame.
Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre.
La réponse, je ne peux pas la donner en tant que psychiatre, dans la mesure où, pour répondre à cette question, j'aurais dû voir les deux protagonistes. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y avait une sorte de dépendance à ce couple et aussi à ce trio dont je parlais, c'est-à-dire à cette situation de fait d'un couple qui vivait autour et par la drogue. Et ça, c'est certain qu'elle était dépendance. Est-ce que pour autant il y avait d'emprise ? Pour y répondre, c'est plus compliqué. Ce que, par contre, nous pouvons affirmer, les experts qui l'avaient vu, c'est qu'elle avait les moyens psychiques de se défaire cette emprise et qu'elle ne l'a pas fait. Elle avait la capacité de s'en aller, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan économique que sur le plan social, elle ne l'a pas fait. Donc, même s'il y avait une emprise, elle n'était pas suffisante pour empêcher Madame Bourgeon d'agir et préserver sa fille des violences.
Trois ans après la disparition de Fiona, sa mère Cécile Bourgeon et son beau-père Berkane Maclouf sont renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Depuis le début, ils se rejettent la responsabilité de la mort de la petite. Et si ce procès permettait enfin de savoir ce qui s'est passé? Et pourquoi pas enfin de retrouver le cadavre de l'enfant?
Quand je vais arriver à la cour d'assises, je vais être interpellée par deux, trois personnes du public qui vont, à partir de mes yeux bleus, me dire « mais vous êtes Fiona ».
Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger.
Alors ça, c'est une phrase « vous êtes Fiona » qui m'a un peu sidérée. Et je suis rentrée avec cette phrase-là, en fait, dans la cour d'assises. Puisqu'il s'avère que cette petite fille avait les yeux extrêmement bleus et que je serais la seule à avoir les yeux extrêmement bleus dans cette cour d'assises. C'est un détail qui pourrait faire sourire, mais qui ne me lâchera jamais et qui va amener une forme d'identification et au niveau des jurés, ça s'est senti, au niveau du public, mais surtout au niveau de Madame Bourgeon. Et je vais devoir naviguer avec cela.
Deuxième jour du procès de la mère de Fiona et de son ex-compagnon devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. L'audience de ce matin va être consacrée au portrait de la mère. Qui est vraiment Cécile Bourgeon?
Il s'avère que Madame Bourgeon, je pense aussi, par cette couleur des yeux bleus, va très vite chercher le contact visuel avec moi. Et il va s'avérer que je suis l'avocate la plus jeune, que je suis blonde, qu'elle est blonde, et qu'il y a une forme d'enjeu de féminité qui va se mettre à l'œuvre dès le départ. Et donc, elle va avoir le souci d'être très réactive à ce que je peux poser comme question, dans une forme de défiance, d'opposition, mais le quart d'heure d'après sur une autre question, être dans une volonté de faire amie, copine, voire même parfois dans un rôle de sœur. C'était très confusionnant pour moi, cet aspect d'une femme qui, à tout prix, cherche à s'agripper un peu à vous. Et j'ai été la seule avocate de ces procès, de tous les procès, où elle a eu cette attitude-là.
Code P67, examen psychologique d'Hélène Dubost. Chez Cécile Bourgeon, c'est l'immaturité aux accents particulièrement infantiles qui apparaît au premier plan. La modalité qui prévaut est la dépendance à l'autre, quel que soit le prix à payer. L'amour porté à l'objet en charge de combler au dehors ce qui défaillait au dedans a aussi pour fonction de pallier les béances narcissiques et identitaires, les angoisses de perte et de séparation semblent l'amener à se victimiser sans cesse.
Mais je suis une avocate qui assume totalement sa féminité, donc au-delà de ma robe noire, j'ai du rouge à lèvres rouge et des talons lorsque je suis en cour d'assises. Au bout du troisième jour sur la première quinzaine de procès, Madame Bourgeon va avoir du rouge à lèvres rouge. Voilà, quelque chose qui n'avait jamais été noté auparavant. Quand je faisais une queue de cheval, elle avait les cheveux qui étaient également tirés en arrière. Et il y avait une adhésion, en tout cas une recherche d'adhésion qui allait jusqu'au physique, qui était vraiment déstabilisant et qui avait d'ailleurs été à plusieurs reprises des procès noté par les journalistes qui suivaient. Et c'était même devenu une forme de petite blague sur comment je venais habiller le matin, comment j'étais coiffée et de voir comment Madame Bourgeon allait réagir. Et ça, c'est peu commun. D'une, ça se prépare pas, ça se vit, ça se subit, et ça amène aussi à adapter ses positionnements dans les questions, dans la façon dont j'ai pu m'adresser à elle. Je n'ai jamais senti ça comme une volonté de me déstabiliser, parce qu'il y avait effectivement ces éléments de personnalité et d'expertise qui étaient dans le dossier et qui me permettaient de comprendre que j'étais pour Madame Bourgeon comme une surface de projection, d'identification et aussi quelque part, je dirais, de fantasme. J'étais un peu tout ça à la fois. Les experts avaient souligné dans les expertises le côté très infantile de Madame Bourgeon, sa très grande immaturité, mais aussi son souci d'adhésion à son interlocuteur. Adhésion qui va être tantôt dans la volonté d'être aimée, mais aussi dans la volonté de s'opposer. Mais elle ne le fait pas avec tous les interlocuteurs. Et mon travail était soit d'aggraver finalement l'émotion dans laquelle elle était pour, encore une fois, aller rechercher dans l'émotion une part de vérité sur ce dossier-là, soit au contraire chercher à l'apaiser, moi-même étant dans de la séduction avec elle, pour mieux prendre une forme de confidence.
Autant son ancien compagnon est volubile et parfois agressif, autant elle apparaît douce et effacée, une sorte de madame tout le monde au physique passe-partout, bien qu'elle ait beaucoup grossi sous l'effet des médicaments depuis qu'elle est en prison. Mais c'est vrai qu'il est tentant de voir en elle une femme sous influence, obéissant au doigt et à l'œil à un compagnon violent. Ce n'est pas ça du tout, répond pourtant maître Charles Fribourg, l'avocat du père biologique de Fiona.
Elle a agi sans influence. Vous jugez, lorsqu'elle ment, vous verrez, elle est toute seule. Lorsqu'elle maquille Fiona alors qu'elle est tuméfiée, elle le fait tout seul. Toute seule.
Cette personnalité et le fait de la vivre pendant quasiment 2, 4, 6, j'ai fait quasiment 6 semaines en tout avec Madame Bourgeon, m'a permis de mieux me rapprocher aussi de qui était Fiona, de comment elle a pu vivre, elle, à 5 ans, cette mère, femme, jeune fille, quelque part sœur, c'est-à-dire toutes ces facettes-là de Madame Bourgeon, et donc de faire une plaidoirie pour Fiona lors du dernier procès, c'est-à-dire que j'ai plaidé en jeu. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'essaye de pas vomir, c'est dur. Ma petite sœur me fait un câlin, un bisou magique. Je veux aller à l'école. Ce matin, je veux aller à l'école. Maman, elle est gentille. Elle me dit qu'elle va me rendre belle. Elle prend sa trousse de maquillage et elle me maquille, comme une princesse. Elle me met un bandeau comme une couronne. Il est jaune. Elle me dit que je suis belle. Je me regarde dans le miroir. C'est pas vrai. Je suis moche. C'est sûr. Je m'en fiche. Je l'enlèverai mon bandeau à l'école. Et peut-être que quelqu'un verra. Mon aide s'aime. Elle dira. Et je pourrai enfin retrouver mon papa. Je suis elle et en même temps, il faut que j'arrive à la laisser là. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vécu cette plaidoirie. Et avec en plus une Fiona qui ne dirait, j'en suis certaine, pas autre chose que cela. C'est-à-dire une petite fille de 5 ans qui ne nomme pas la violence autrement que par « j'ai mal à tel endroit de mon corps, je me raccroche à ce que je vis à l'école ». J'ai vraiment vécu ce moment-là comme du fond de vos tripes, vous avez une petite voix d'enfant et vous devez la restituer. On dit souvent qu'un avocat a une affaire dans sa carrière, qu'il le suit jusqu'au bout, et je crois que c'est le cas de cette petite fille.
Cécile Bourgeon est poussée dans ses retranchements par l'avocate Marie Crimoux. Mais rien n'y fait. Comme pendant l'instruction, elle ne craque pas. Pas plus que son compagnon. Jamais ils ne diront où ils se sont débarrassés du cadavre de Fiona.
Quant au père biologique, il est assis au premier rang. Face au box des accusés, il veut savoir où le corps de sa fille a été enterré. Jusqu'ici, les recherches n'ont rien donné.
Je veux savoir où est ma fille et qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement. Où ils l'ont mis, qu'elle puisse être enterrée. Je suis prêt à tout entendre. De toute façon, je suivrai tout, je serai là tous les jours. Donc, oh oui, je suis prêt à tout entendre.
Bon, il y a eu beaucoup de policiers qui sont allés chercher ce corps dans les bois, dans la forêt.
Hélène Dubost, experte psychologue.
Elle emmène son monde sur ses chemins à elle, et elle tente de les y perdre pour cacher la vérité, pour ne pas dire ce qu'il en est de la vérité, de toute évidence. Elle balade, on pourrait dire communément, elle balade son monde. Elle est là-dessus, elle est très forte, elle a l'habitude. Bon, moi je pense qu'ils savent très bien de quoi il en retourne l'un et l'autre. Et là-dessus, c'est le seul point où ils ne se sont jamais dissociés.
Il y avait un pacte. Ce pacte jamais ne se déliera entre M. Maclouf et Mme Bourgeon. Parce que de révéler ce qui s'est passé pour Fiona, ça serait, et je pense que c'est la conscience de Mme Bourgeon de cela, ça serait définitivement les exclure du monde des hommes. Je pense pas que Fiona ait été enterrée. Je pense pas. Un certain nombre d'indices, de propos ici et là, de déclarations qu'elle a pu faire aussi également en détention auprès de co-détenus, laissent à penser que Fiona a été mise plutôt dans un lieu de traitement des déchets. Et que si elle devait expliquer cela, dire cela et le nommer, elle ne pourrait plus jamais en fait... amener un tout autre regard que celui d'une mère qui ne peut même pas emporter le nom. Et ça, Madame Bourgeon, ça a été son combat. Son combat jusqu'au bout, celui de ramener toujours sur elle un regard compatissant, un regard de victime, faire partie d'un monde pour ne pas en être abandonnée. Donc si vous lui enlevez cela, elle n'est plus rien. Et c'est sa vie-là même qui est en danger. Donc le pacte, il est là, il est entre eux, il était entre eux le temps du procès, mais il va bien au-delà. C'est un enjeu de vie dans la communauté des hommes. Et ça, elle l'a parfaitement compris.
Après un marathon judiciaire de 4 procès, Cécile Bourgeon est plus lourdement condamnée que son ex-compagnon. Elle écope de 20 ans de réclusion criminelle. Merkan Maclouf, de 18 ans. C'était Ondelat raconte Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête Vincent Deby. Réalisation Mathieu Frey.
Retrouvez Ondelat raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.